Radio.
Bonsoir et bienvenue sur Ma Radio. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2014, il est 18h. Ma Radio est une nouvelle venue sur les ondes franc-comtoises, puisqu'il s'agit d'une web radio locale qui sera centrée sur Montbéliard et son agglomération. Cette radio est née de l'initiative du BTS audiovisuel du lycée Viette et prendra la forme de 6 émissions d'une heure, diffusées en streaming et podcastables sur le site www.radio.btsaudiovisuel.com. Cette émission comprendra diverses chroniques couvrant le cinéma, la musique, l'information locale, les nouvelles technologies ou encore les people. Et tout de suite, c'est l'invité du jour.
L'invité du jour.
Notre premier invité sera Monsieur Robert Natal, proviseur du lycée Viette. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être pour vous introduire pour nos auditeurs et tout ça, pourriez-vous peut-être vous présenter succinctement et offrir peut-être votre parcours professionnel à nos auditeurs?
Écoutez, je suis proviseur de cette cité du lycée Jules Viette depuis 3 ans maintenant. C'est la 3e rentrée scolaire que j'effectue. Et j'ai un parcours classique dans l'éducation nationale. Voilà, j'ai commencé comme professeur des écoles et puis petit à petit, j'ai gravi les échelons, jusqu'à devenir principal de collège, proviseur de lycée professionnel, proviseur de lycée.
Très bien. Et au fur et à mesure de votre métier de proviseur, est-ce que vous avez remarqué une évolution de ce métier? Et si jamais, sur quels aspects?
Sur quels aspects? Écoutez, il y a une évolution, comme pour tout métier d'ailleurs, une évolution extrêmement forte pour les proviseurs, puisque nous avons de plus en plus d'autonomie, mais nous sommes de plus en plus regardés par, d'une part, la population et d'autre part, le ministère qui nous demande d'avoir des résultats de plus en plus positifs. Une évolution aussi en matière de décrochage scolaire, et ça fait la une des journaux depuis plusieurs semaines. Le décrochage scolaire est une de nos priorités actuellement. Donc voilà, le lycée évolue aussi dans ce domaine-là. Il s'agit d'éviter de laisser quiconque sur le bord du chemin.
D'accord, et c'est aussi bien sûr promouvoir la réussite des élèves, ce qui pourrait par exemple offrir une attractivité à l'établissement scolaire. Mais quels sont les arguments majeurs du lycée Viette à l'heure actuelle ?
Écoutez, vous êtes bien placé pour le savoir. Le BTS audiovisuel est un argument tout à fait pertinent pour la connaissance que le public a du lycée Viette. Mais il y a d'autres arguments que celui-là, bien entendu. C'est la diversité de ses formations, tant en termes d'enseignement professionnel qu'en termes d'enseignement général, avec une spécificité sur le technologique, l'industriel et le scientifique.
Donc, si je comprends bien, c'est une offre de formation étendue, allant de la seconde jusqu'au supérieur, les CAP, les BTS, les classes préparatoires également.
Il y a même une classe préparatoire, vous faites bien de le souligner, en technologie et sciences industrielles, qui permet à des jeunes gens qui ont suivi une formation de sciences et techniques industrielles du développement durable d'accéder aux écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses, comme les moins prestigieuses d'ailleurs.
Et certaines sections ont-elles plus de difficultés à recruter? Et si oui, lesquelles? Et si oui, comment résoudre ces problèmes?
Alors bien entendu, certaines sections ont plus de difficultés que d'autres. Je pense à certaines sections professionnelles qui trop souvent font appel à des jeunes gens pour lesquels ce n'était pas leur premier vœu que d'accéder à ce type de formation. Donc ce sont des formations qui requièrent toute l'attention de la communauté éducative, bien sûr.
Et pourriez-vous recenser les différentes initiatives qui ont permis de rehausser de manière significative l'image de l'établissement si jamais il avait été un petit peu détérioré?
Alors c'est vrai que cet établissement, d'abord c'est l'établissement phare du pays de Montbéliard depuis 50 ans maintenant. Il a traversé quelques difficultés pendant ces 10 dernières années avec des chutes d'effectifs assez importantes. Depuis 3 ans maintenant, nous essayons de relever ce défi qui est un défi extrêmement important et pour le faire, nous avons mis en place un plan de communication, d'une part, à destination du public, s'agissant des portes ouvertes qui auront lieu très prochainement pour le post-bac, mais aussi à la fin du mois de mars pour le pré-bac. Nous mettons en place un vaste plan de communication, d'une part. Deuxièmement, nous essayons de ne pas être laxistes et nous adoptons une attitude relativement ferme à l'égard des quelques élèves, ils ne sont pas nombreux, qui pourraient avoir un comportement pas tout à fait adéquat, pas tout à fait approprié au comportement que l'on attend d'un jeune. Voilà.
Très bien, merci pour ces précisions et merci de nous avoir accordé un peu de votre temps.
C'est moi qui vous remercie pour cette première. Je tiens à vous féliciter de l'excellente initiative que vous avez prise et j'espère que cette radio aura une longue vie.
Eh bien, nous espérons également. Merci à vous, Monsieur Natal.
Merci.
Tout de suite, un brin de musique avant notre chronique cinéma. C'était le groupe Beans, Drive It Hard. Et tout de suite, c'est la chronique ciné avec Romain Mollet.
L'émission ciné.
Bonjour Romain. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au cinéma, aujourd'hui, cette semaine, enfin, qu'est-ce qui se passe sur la planète cinéma, Romain ?
Eh bien, je voulais commencer par parler de Quentin Tarantino.
Excellent choix.
Oui, merci. Quentin Tarantino qui a vécu des petits problèmes récemment. Il a eu des problèmes de fuite et de fuite de scénario, en fait. Alors, bon, je vais commencer par parler de Tarantino lui-même. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Tarantino, il a réalisé des films comme Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Inglourious Basterds, ou encore le récent Django Unchained qui a fait un carton en salle l'année dernière.
Donc une liste assez succincte, mais des succès finalement.
Quasiment que des succès en fait, et c'est un réalisateur vraiment très très important dans l'univers du 7e art aujourd'hui, du 7e art contemporain, pardon. Et il était en train d'écrire un scénario, qu'il avait d'ailleurs terminé au début de l'année, un scénario de 150 pages, et qui a malheureusement...
Qui s'intitule,
The Hateful Eight, littéralement les 8 détestables, pour traduire littéralement.
Ça fait un peu les 7 salopards.
Hein. Ça fait très les 7 salopards, mais ça, apparemment ce serait plus une odyssée sanglante à travers l'Ouest américain.
Très bien.
Rien à voir avec les 7 salopards, donc. Mais,
qui le ferait rester dans la veine du western, finalement.
Tout à fait, puisque, pour le rappeler, Django Unchained, son dernier film, était un western.
Exact.
Très bon western, d'ailleurs. Et donc, il avait écrit ce scénario de 150 pages, qu'il avait terminé, et qui a malheureusement fuité. Il a fuité, des gens l'ont appelé pour essayer de vendre... des acteurs, alors que lui-même avait écrit des rôles précisément pour des acteurs qu'il avait en tête. Il avait vraiment écrit des rôles en pensant à des acteurs précis.
Et, oui, il a une manière de gérer le casting bien à lui.
C'est, c'est une phase qui est très très importante pour lui. Quand on voit le résultat dans ses films, on le comprend d'ailleurs. Et il s'est carrément retiré du projet. Et donc, il ne fait pas les choses à moitié.
Donc, suite à cette fuite.
Suite à cette fuite. Et il a dit, je cite, « Je suis très très déprimé. J'avais terminé le scénario, un premier jet, et je n'avais pas l'intention de le réaliser avant l'hiver prochain dans un an. Je l'avais confié à 6 personnes, et apparemment il est sorti sur la place publique. Je ne ferai pas ce film, je vais publier le scénario, et c'est tout pour le moment. Je l'ai confié à 6 personnes, et si je ne peux pas leur faire confiance, je n'ai aucune envie de le faire. Je le publierai, j'en ai assez, je vais passer à autre chose. » Donc des mots très durs pour quelqu'un qui est habituellement très très enjoué.
Et Mais y a-t-il donc des coupables, des gens montrés un peu du doigt?
Oui, mais je ne sais pas si je vais citer des noms, mais il avait donné le, le scénario à 6 personnes, 2 producteurs et 4 acteurs, dont Christoph Waltz, qui est le colonel Hans Landa dans Inglourious Basterds et King Schultz dans Django Unchained, et Bruce Dern. Dern, alors je voulais faire un petit rappel sur Bruce Dern, qui est un acteur peu connu, mais qui est... une sorte d'idole aux États-Unis pour pas mal de monde, dont Tarantino, qui l'a carrément appelé un trésor national.
Ah oui.
En lui rendant hommage. Donc c'est pas n'importe quoi. Bruce Dern, c'est le seul acteur qui a tué John Wayne dans un film.
Il n'y en a eu qu'un.
Et c'était Bruce Dern. Alors John Wayne, qu'on le connaisse bien ou pas, c'est quand même une icône et un badass, comme on dit aujourd'hui. Et voilà. Et donc voilà, Bruce Dern, c'est quelqu'un qui est très très important dans l'univers cinématographique américain.
Il a des filiations, non, avec Laura Dern?
Il a des filiations avec Laura Dern, c'est son père, tout simplement.
D'accord, okay.
Laura Dern, qui a joué dans Sailor et Lula pour les films les plus connus.
Oui, l'une des actrices fétiches de David Lynch
voilà. Et donc voilà. Et pour en revenir donc à cette fuite, je trouve ça vraiment très très triste. Parce que Quentin Tarantino, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça a été, c'est en voyant un de ses films que j'ai vraiment découvert le cinéma. En fait, en voyant Pulp Fiction, je l'ai regardé 2 fois de suite. c'est vrai, c'est véridique. Et ça a été ma vraie première claque. Et donc le voir comme ça prononcer des mots durs, très sérieux et... On n'a pas l'habitude et c'est vraiment quelque chose qui m'attriste.
D'accord.
Et apparemment, donc, le scénario aurait fuité auprès des agents d'autres acteurs. Donc, il a reçu plein d'appels des agents qu'il ne connaissait pas, qui ont essayé de lui vendre des acteurs. Et c'est donc quelqu'un qui travaille beaucoup à l'affectif. Hein. Il a beaucoup d'acteurs fétiches. Et voilà. Et donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très triste, d'autant qu'un nouveau western aurait été vraiment fabuleux. Mais bon, vous savez, hein, les magouilles à Hollywood, c'est définitivement un autre monde.
Le deuxième thème que vous souhaitez aborder, Romain,
C'est Hayao Miyazaki. Donc c'est mon film coup de cœur de la semaine, c'est Le Vent se lève, c'est son dernier et ultime film. Donc Hayao Miyazaki, c'est un réalisateur japonais, un maître de l'animation, qui a environ 30 ans de carrière à peu près, et qui a cofondé le studio Ghibli, qui est un studio très très important dans l'animation mondiale aujourd'hui au cinéma. Et donc, il nous présentait donc, cette semaine en France son dernier et ultime film, nommé donc Le Vent se lève. Et c'est un film que je considère comme étant un aboutissement total et complet de son œuvre. Parce qu'il faut bien comprendre que Miyazaki, dans sa filmographie, il a réussi à nous faire ressentir des émotions, une multitude d'émotions qui va de la joie, comme dans Mon voisin Totoro, qui est une fable enfantine absolument magnifique, ou de la tristesse et même de la peur dans des films comme Nausicaa et Mononoke, qui sont des films beaucoup plus matures, beaucoup plus durs. Et en fait, il transforme chacun de ces films comme étant une expérience fantastique et fabuleuse au final. Et donc, je suis allé voir ce film au cinéma en fin de semaine dernière. Et en sortant, j'ai discuté avec un ami qui me parlait de ce film comme étant une œuvre presque autobiographique. Parce que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, beaucoup d'analogies, beaucoup de clins d'œil à toute sa filmographie. Mmh. Et il y a carrément une analogie qui saute aux yeux, c'est-à-dire que son personnage principal, qui est Jiro Horikoshi, c'est un personnage qui a vraiment existé, qui était un ingénieur en aviation japonaise entre les deux guerres mondiales. Et cette analogie, en fait, à travers ce personnage, on voit le réalisateur lui-même. On le voit passionné dans son travail, on le voit investi comme jamais. Et il y a des scènes où on le voit dessiner des plans, et c'est tout à fait des images que j'aurais pu m'imaginer de Miyazaki en train de dessiner ses planches pour ses mangas et ses films.
Une sorte de mise en abîme, un peu.
C'est tout à fait une mise en abîme. On voit pas mal de clins d'œil, d'ailleurs, étant donné que c'est une œuvre autobiographique, mm-hmm. si on parle là-dessus, on voit pas mal de clins d'œil à sa propre filmographie, outre le fait que ça parle dans le film, on parle encore de la conquête de l'air, voler dans les airs, un thème qu'il a beaucoup abordé, notamment dans Le Château dans le ciel et dans Porco Rosso. Bon, il y en a eu d'autres, hein, mais pour les plus connus. Mais il y a pas mal de petites choses plus subtiles, comme une petite fille qui fait beaucoup penser dans le caractère à la petite de Mon voisin Totoro. Il y a aussi un plan qui est carrément similaire, pour parler du château dans le ciel, un plan qui est carrément similaire où dans ce film on voit une carcasse d'avion éclairée juste par un halo de lumière. Dans Le château dans le ciel, on a exactement le même plan d'un robot complètement détruit avec un homme devant. Et là, c'est vraiment, vraiment le même plan. Et à côté de ça, il s'autorise une interprétation du rêve totalement libre, vraiment très très intéressante, très colorée, et il crée une relation amoureuse, alors que j'ai trouvé déchirante et horrible, entre les deux personnages principaux, et je vais m'arrêter là, parce que après je vais commencer à spoiler.
D'accord, très bien.
Et voilà. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup un film à voir, que je recommande fortement. J'ai pleuré à la fin, voilà. Je ne me cache pas.
Il n'y a pas de honte.
Je ne me cache pas, j'ai pleuré à la fin, j'ai été ému aux larmes. Et je vais conclure en disant qu'un certain Paul Valéry a dit un jour « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Et en donnant cette phrase comme titre à son film, Miyazaki nous dit au revoir et nous lègue un héritage. Alors le vent se lève, un grand monsieur tire sa révérence, il faut tenter de vivre. Tu peux compter sur moi, je ferai de mon mieux. Merci monsieur et adieu.
Merci Romain. Tout de suite un intermède musical pour repartir sur la chronique du geek après.
Sugar baby, ow. Is motorcycle, naked elevator out, let it all hang out, yeah, isn't that wild, Janice, isn't that wild, isn't that wild.
Jelson, isn't that wild? Et tout de suite, c'est Leslie Pierre pour la chronique du geek. Salut Leslie.
Salut Nicolas, comment ça va?
Oh bah écoute, tout va bien, c'est la première. Hein? Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de beau aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler de codage par ADN, d'ordinateur quantique et de thérapie régénératrice du myocarde. Mais pour commencer, le codage par ADN. Donc l'ADN, hein, l'acide désoxyribonucléique, hein, eh bien les chercheurs, il se trouve qu'ils savent en faire de manière synthétique. Complètement synthétique. Et ils ont réussi dernièrement à stocker 154 sonnets de Shakespeare, le discours audio de Martin Luther King, et un article scientifique de 1953 de Watson et Crick décrivant la forme à double hélice de la molécule de la vie qu'est l'ADN. Donc, alors l'ADN, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la molécule du vivant. Tout être vivant est constitué de cette molécule et permet. Cette molécule permet ainsi de coder des informations qui sont spécifiques à chacun d'entre nous, à chaque plante, à chaque animal, etc.
Mais vous êtes en train de nous dire que grâce à l'ADN, on pourrait transporter des données dans
tout
un futur proche.
Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, ça a été réalisé. Et, ils ont réussi à coder et décoder par la suite les informations. Donc alors, pour vous donner une petite idée, en informatique, on utilise le langage binaire, donc deux chiffres, 0 ou 1, qui permettent de coder deux états électriques différents. Et permettent ainsi de transférer des informations, des photos, etc. On l'utilise tous les jours avec Internet et l'ordinateur. En génétique, ce sont les lettres G, T, C et A qui sont utilisées pour coder de l'information. Et c'est minuscule, je veux dire, toutes les informations sont contenues sur quelques brins d'ADN qui correspondent à un minuscule grain de poussière, si on parle d'un point de vue de la taille, tout simplement. Bon, c'est encore relativement cher, hein, il faut compter 10 000 euros le mégaoctet. Et il faut savoir que d'ici une dizaine d'années, les experts pensent que le prix devrait être au moins divisé par 100. Donc ce qui pourrait éventuellement envisager une exploitation réelle et non plus seulement dans le domaine de l'expérience. Donc oui, pour vous donner une idée, Nicolas, ce que vous disiez tout à l'heure, on pourrait transporter dans notre poche, sur une clé USB ADN par exemple, toutes les connaissances humaines et ce depuis l'aube de l'humanité.
Mais c'est quand même quelque chose. Hein.
Ouais. La deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'ordinateur quantique.
Donc on reste dans l'infiniment petit.
Dans l'infiniment petit, c'est ça. Alors l'ordinateur quantique, qu'est-ce que c'est? Ça combine l'informatique, donc un ordinateur, on va dire, classique, et la physique quantique. La physique quantique, qu'est-ce que c'est? C'est la physique de l'infiniment petit, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est constitué d'atomes. À l'intérieur des atomes, il y a des quarks. Et la physique quantique s'applique au fonctionnement, tout simplement. Ce sont les lois physiques qui régissent le monde quantique. Tout comme nos lois de la physique classique... que régissent nos vies. Alors il faut savoir qu'en informatique, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on utilise 0 et 1 pour coder. En physique quantique, on utilise ce qu'on appelle un qubit. Alors un qubit, qu'est-ce que c'est?
C'est
un bit quantique en fait, qui a la possibilité de prendre deux états à la fois. En même temps, le bit quantique peut se trouver à deux endroits différents. Et c'est là que ça ouvre des opportunités énormes, c'est-à-dire que ça double les puissances de calcul. Pour vous donner une idée, avec 10 qubits, on pourrait faire 1024 choses à la fois. Avec 24 qubits, on pourrait en faire 16 777 216. Et avec 300 qubits, on aurait une puissance de calcul suffisante pour simuler le comportement de l'univers tout entier. Et les chercheurs y arrivent peu à peu. D'accord. Nous arrivons à concevoir des ordinateurs aujourd'hui à quelques qubits. Raisonnablement, bien sûr.
Très bien.
Alors, pour conclure, je dois vous parler de la thérapie régénératrice du muscle cardiaque. Alors, depuis une dizaine d'années, les chercheurs ont suivi une piste grâce à des cellules souches, qui sont des cellules qui ne sont pas encore tout simplement programmées pour devenir soit cellules neuronales, soit cellules musculaires, soit cellules osseuses. C'est la société biopharmaceutique belge qui vient de lancer le traitement sur 240 patients dits de phase 3. C'est un remède à l'insuffisance cardiaque d'origine ischémique, qui correspond tout simplement à un affaiblissement du cœur lors d'un infarctus du myocarde. Il faut savoir qu'en France, on est 1,2 million de personnes à être concernées par ces insuffisances cardiaques. Et le traitement permet d'éviter des transplantations très lourdes et des opérations qui peuvent épuiser les patients, voire même malheureusement les tuer dans le cas d'une mauvaise, d'un mauvais traitement. Alors, un premier test avait été effectué sur 500 patients, et ce, dès l'année dernière. Et cela a conduit, dès la première injection, à l'amélioration du rythme cardiaque des patients et à une meilleure condition de leur cœur. Ce sont les chercheurs André Tercier et Atta Beffar qui ont permis de découvrir cela. Et ce traitement est dit autologue, car il n'y a pas de rejet immunitaire. En effet, les cellules souches sont prélevées directement dans la moelle osseuse du patient en question. D'accord. Et permettent ainsi de ne pas rejeter du tout, car vous savez, lors de greffe de main, par exemple, il arrive qu'il y ait des rejets. Eh bien là, ce n'est pas possible, car le corps humain considère que les cellules appartiennent, sont au réellement lui, à lui. Okay. Donc les chercheurs prennent ces cellules souches, ils les programment in vitro, et ainsi les font devenir cellules cardiaques. Ils reproduisent les signaux protéiniques qui, pendant la phase embryonnaire, ce sont les signaux émis aux cellules pour qu'elles induisent, soit qu'elles deviennent des cellules musculaires, neuronales ou osseuses, etc. Il faut savoir que ces cellules, donc devenues cardio-réparatrices, sont ensuite injectées directement dans le myocarde, environ 600 millions de cellules par injection. Et ces cellules injectées sont capables d'induire véritablement une réparation des tissus névrosés. Donc c'est un grand progrès.
Très bien, donc que de progrès aujourd'hui finalement. Très bien, merci beaucoup Leslie, merci pour ces précisions, c'est quand même quelque chose, c'est quand même incroyable toutes ces évolutions. Tout de suite nous allons commencer une nouvelle chronique qui va être peut-être un peu moins folle ou peut-être un peu plus, c'est l'instant décalé avec Margot Malo.
L'instant décalé.
Bonjour Margot.
Et salut Nico, comment ça va?
Très bien, très bien. Tout le monde me le demande aujourd'hui.
Décidément. Bonjour à tous les auditeurs. Alors moi, c'est Margot. Je vais être avec vous pendant 6 émissions. C'est moi qui vais tenter de vous raconter des trucs un peu insolites. Et aujourd'hui, j'ai la pointe de la mode. Je vois que tu adores la mode, Nico.
Merci. Heureusement qu'on est en radio.
C'est vrai. J'espère que tous les auditeurs adorent la mode parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé l'élément phare pour être le mieux pour la Fashion Week. Alors c'est Michel Royer, déjà ça nous en dit long.
Effectivement.
C'est Michel Royer dans le Tarn qui a confectionné, qui est à l'origine de l'invention de la confection des vêtements, tenez-vous bien, en poils de chien.
D'accord.
Ça vous embouche un coin et j'imagine ça embouche un coin à tout le monde. En effet, alors vous inquiétez pas si vous êtes très attaché à votre chien. Michel Royer peut vous faire des vêtements avec les poils de vos chiens.
Pour être encore plus attaché avec ces animaux.
Tout à fait. Alors, s'il fait un peu froid, l'inconvénient, c'est que du coup, vous aurez chaud, mais que votre chien aura froid. Donc, bon, c'est à vous de choisir après. Hein. C'est chacun son truc. Alors, je tiens à vous rassurer, parce que je pense que certains pourraient être inquiets. Alors, le poil de chien est très bien traité. D'accord ? Non, mais qu'on soit d'accord. La laine est très bien lavée, très bien séchée. Elle est traitée complètement naturellement. Et grâce à ça, tenez-vous bien, vous ne sentirez pas le chien mouillé quand vous sortirez et quand il pleuvra. C'est quand même l'info qu'il fallait préciser, non ?
C'est vrai qu'on avait besoin de précision, c'est sûr.
Voilà, alors vous pourrez également faire des écharpes, des tés d'oreiller, mais aussi des traversins. Vous pourrez faire des chaussures, vous pourrez peut-être mettre des lacets, des boutons. Non, peut-être pas des boutons, mais vous pourrez faire plein de choses. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai d'un truc encore plus insolite, c'est comment acheter la Play 4 grâce à sa femme. Alors je sais que c'est compliqué entre la femme et l'homme pour acheter la Play 4 et tout ça. Donc restez bien présents et soyez là la semaine prochaine. Comme ça, tous les hommes qui veulent la Play 4 et qui veulent éventuellement plus leur femme pourront écouter ça et avoir l'astuce qu'il faut pour le faire.
Mon Dieu, quelle radio nous sommes. Merci Margot pour ces précisions.
Eh bien, merci à vous. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine, soyez nombreux.
Très bien, merci encore. On va pas tarder maintenant à ouvrir le point info avec Mathias Boss.
maintenant les infos.
Bonjour Mathias.
Bonjour Nico.
Alors, que se passe-t-il aux informations locales et moins locales? C'est à vous.
Alors, dans les faits divers, Bettencourt, un homme appelle les pompiers pour une tentative de suicide et les agresse à leur arrivée. Éducation sexuelle à la maternelle, des parents inquiets. Il ne s'agit que d'une rumeur. Chômage, il a augmenté de 3,4% en un an en Franche-Comté. Triple meurtre à Belfort, un homme s'accuse du meurtre du psychologue, de son ex-femme et d'un ami d'enfance. Jura, un homme a été arrêté après avoir posté deux vidéos sur YouTube où il se présente comme le nouveau Mohamed Merah et profère des propos antisémites. Sport, championnat du monde de cyclocross à Brognard. Le Belge Meusen se place en tête devant le Français Francis Mourois qui finit second. Santé, l'unité kangourou de la maternité de Montbéliard est sauvée. On redoute néanmoins des suppressions de postes. Un cas de gale dans une école à Besançon. C'est le troisième depuis la rentrée. Je rappelle que la gale est une maladie infectieuse, contagieuse. Excusez-moi.
Merci Mathias.
Gastronomie. Née en décembre 2013, l'association pour la promotion de la cancoyotte, un produit bien de chez nous, veut faire parler de cette spécialité fromagère qui fait vivre 200 producteurs et 20 transformateurs. Sécurité routière. Manuel Valls a annoncé le 21 janvier la création de zones 80 km/h. Cette mesure ne concernera pas la Franche-Comté. Vandalisme. Un radar a été repeint en rose du côté de Épinoy. Transport. Bagarre et gaz lacrymogène dans un bus à l'arrêt d'Onzelot, lundi après 17h. Le tram à Besançon pose la question des voies d'accès des véhicules de secours. Il les a actuellement remplacés. Environnement. Le Parlement a voté l'interdiction d'utiliser les insecticides dans les espaces verts. Il faudra attendre 2020 pour le voir appliqué. 100 ans. C'est l'âge qu'Anne-Marie Roland fête cette année. La fête est organisée par l'association Mieux Vivre à l'Hexagone.
Merci beaucoup Mathias pour toutes ces précisions.
De rien Nikos.
Et tout de suite, nous lançons la météo, présentée par la somptueuse Violaine Genioux.
La météo.
Alors Violaine, quel temps fait-il aujourd'hui sur Montbéliard et son agglomération?
Alors bonsoir Nicolas, alors demain, le soleil sera parmi nous avec le matin un ciel plutôt dégagé et une température de 3 degrés. Quant à l'après-midi, il y aura quelques nuages qui viendront obscurcir le ciel, mais les températures seront en hausse. Samedi, pour le premier jour du mois de février, il y aura de la pluie, du vent et les températures seront plutôt fraîches. Quant à dimanche, on peut espérer quelques éclaircies, puisque le soleil tentera de pointer sur le bout de son nez.
Très bien, il n'y a plus de saison, Violaine.
Eh bien non.
Et tout de suite, c'est Halloween Head de Carol.
It hurts my heart when we run.
C'était Halloween Head de Carole. Et tout de suite, c'est l'émission 120 secondes de People.
120 secondes People.
Alors sur la planète People, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Cassandra? Bonjour.
Bonsoir, bonsoir à tous d'ailleurs. Alors c'est parti. Donc pour commencer, on va parler de la talentueuse Lara Fabian. J'imagine que vous connaissez, que vous adorez ses chansons.
Pas nécessairement.
Ah bon, alors et ben ça tombe bien parce que jusqu'en été, elle va arrêter son concert parce que lors d'une répétition, je ne sais pas si vous le saviez, il y a quelques mois, un technicien a eu un petit accident et lui a envoyé à peu près 1000 Hz dans l'oreille. De ce fait, elle est atteinte d'une surdité profonde et donc c'est pour ça que ses fans devront attendre jusqu'en été.
D'accord.
Et donc je suis absolument navrée pour ça. Hein, absolument.
C'est pas de votre faute, je pense.
Il ne semble pas. Et donc je suis aussi désolée pour toutes les filles qui ont rêvé de se réveiller à côté du beau et unique Hugh Grant. Je ne suppose que ce n'est pas votre cas non plus.
J'ai toujours rêvé de me réveiller à côté de lui.
Ah, oh, dis donc, on en apprend des choses.
Et donc?
Alors, on vient d'apprendre que cet éternel célibataire est un papa de 3 enfants. Bon, d'accord, les 2 premiers, on était déjà au courant. Mais le petit dernier est une nouveauté qui est née en septembre 2012.
D'accord.
Et donc, c'est un petit cachotier. Mais apparemment, comme notre président, qui n'a pas concerté son ex-femme, donc l'ex-première dame de France, Valérie Trierweiler, qui a annoncé donc officiellement son célibat. Apparemment, cette femme voulait encore le récupérer parce qu'elle l'avait pardonné. C'est mignon, mais elle n'était pas au courant. Du coup, elle a été supprimée des 600 à peu près photos de l'Élysée. Gros choc pour elle alors. Et toujours en parlant de belles villas et de superbes palais, ceux de la reine Elisabeth II sont en pitoyable état. Alors c'est apparemment ce que nous ont dit les députés britanniques dans un rapport publié mardi. Désolée. Par rapport, et d'ailleurs ils appellent à une réduction des dépenses royales. Alors c'est pas ce qui arrête la reine d'Angleterre. Hein. Elle recherche encore un gouvernant pour évidemment l'entretien de ses lieux, mais également son entretien personnel puisqu'elle demande qu'il sache faire couler des bains. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. L'annonce est sur le site du Buckingham Palace. Et le Vincent Lagaffe ne se refuse rien non plus puisque l'animateur de 54 ans se présente aux élections municipales. Et oui, comme quoi...
Plus en êtes fou.
Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc ça c'est une histoire à suivre. Et pour le petit plus spécial Franche-Comté, c'est la reprise de L'Amour est dans le Pré depuis à peu près un mois. Et donc la région, et oui, est à l'honneur avec un François de 51 ans. J'espère qu'il donnera une bonne image.
J'espère également. Merci beaucoup Cassandra.
Merci à vous.
Les sorties culturelles présentées par Mathilde Coste.
Radio.
Bonsoir Mathilde.
Bonjour Nico, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour les sorties culturelles. On commence par les événements dans le coin. Rock tout d'abord, ce samedi, le Moloco accueille la Maison Tellier, groupe de folk, rock, blues, tout droit sorti de Normandie, qui se fit connaître par le grand public avec leur titre Suite Royale. Nos 5 gaillards nous joueront en avant-première leur morceau sorti de leur nouvel album Beauté pour tous. Tarif unique de 6 euros, début du show à 20h30 ce samedi 1er février. La première partie sera assurée par Case Kuna. Du côté des bains-douches de Montbéliard, l'Irlandais Liam O'Malley viendra nous interpréter des chants gaéliques traditionnels avec une touche de modernité. Son répertoire mélange élégamment pop et soul anglaise. Multi-instrumentiste, il touche aussi bien au piano, à la guitare, la harpe, mais aussi la flûte irlandaise, le bodhrán. Son groupe est considéré par le magazine Rolling Stones comme l'un des plus grands groupes européens non signés. On l'a retrouvé à jouer auprès des grands groupes comme U2, Van Morrison ou encore les membres de My Bloody Valentine. La curiosité risque de payer ce coup-ci. Le tarif varie de 14 à 16 euros. Début du concert à 20h au bain-douche donc. Electro maintenant avec Oxia, ce DJ grenoblois, s'est imposé comme étant le fer de lance de la scène électronique. Il s'est fait remarquer avec son premier album, 24 heures en 2004, qui a été salué par les critiques. Il viendra nous présenter son second album, Tides of Mine. C'est à la Poudrière de Belfort que ça se passe à 22h ce samedi. Les tarifs varient de 6, 10 et 12 euros. Pour les étudiants qui resteront qui rentreront ce week-end, on a relevé 2 concerts. Donc Boulevard Désert, ce groupe français mélange les genres et aussi entre les chansons françaises, le rock, le reggae, le jazz et la musique fanfare balkanique. C'est à la Vapeur de Dijon que ça se passe. Tarif 25 euros ce vendredi 31 janvier. Pour ceux et celles qui retournent à Besançon, Channel One, les ambassadeurs de la scène roots anglaise, seront sur scène à partir de 20h30 à la Rodia, tarif 14,80. Le prochain rendez-vous des sorties culturelles se fera jeudi prochain avec Cyrielle. De mon côté, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup Mathilde, ça donne vraiment envie de sortir. Mais avant de sortir, il faut bien se nourrir et c'est le moment de l'assiette du jour.
L'assiette du jour.
Alors Méline Darnay, qu'est-ce que vous nous proposez de bon ce soir ?
Alors bonsoir Nico, donc ce soir je vais vous proposer une recette de tagliatelle au saumon. Donc c'est une recette pour 4 personnes. Il vous faut 500 g de tagliatelle fraîche, 300 g de saumon fumé en miettes, pardon, une cuillère à soupe d'échalotes hachées, 4 cuillères à soupe de ciboulette ou d'aneth, 25 g de beurre et 40 cl de crème. En premier, donc faites bouillir de l'eau pour faire des pâtes classiques. Ajoutez par la suite les tagliatelles, salez l'eau. Donc pour jusque-là, rien de très compliqué. Vous les laissez cuire pendant 5-8 minutes. Pendant ce temps, laissez fondre le beurre et y ajoutez l'échalote dans une poêle. Une fois que les pâtes sont cuites, égouttez-les et les ajoutez dans la poêle. Ajoutez-y la crème, les miettes de saumon et la ciboulette et la nette. Donc c'est une recette très simple qui prend un temps de préparation de seulement 15 minutes et qui serait parfaite pour un étudiant. L'astuce du jour, c'est de faire chauffer l'eau à la bouilloire pour gagner un peu de temps.
Une astuce d'étudiant, apparemment. Oui. Ça sent le vécu. Merci beaucoup, Méline. C'est très alléchant.
Rien.
Et tout de suite, c'est notre émission musique présentée par Julien Pelletier.
L'émission musique.
Bonsoir Julien.
Salut Nicolas, ça va ?
Bah, très bien, et vous ?
Alors je vais me présenter, je suis Julien Pelletier, votre accompagnateur pendant quelques minutes, celui avec qui vous partagerez bientôt tout, même vos problèmes d'épilation, d'acné ou de relations conjugales. À travers votre poste de radio, ou plutôt ces lecteurs flash lancés depuis le web, Génération 2.0 représente, il s'établira bientôt un rapport encore plus fort que celui que vous avez avec votre chien, votre poisson rouge ou peut-être même votre belle-mère. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai eu le choix entre une chronique musicale et une chronique humoristique. Le jingle qui précédait ma venue vous a fait comprendre mon rôle au sein de cette émission. Cependant, je ne doute pas qu'il y a quelque part des retardataires et leur rappelle gentiment que nous allons parler de musique. Papa, maman, il vous reste une minute pour trouver le bouton play du lecteur flash. Puisque nous parlons de musique, je vous promets que vous n'entendrez jamais... sur cette radio, parce que je considère depuis mon 9e anniversaire que toute cette musique est le fruit d'un laisser-aller général de l'humanité, qui a sans doute débuté le 3 juillet 1971 après la mort de Jim Morrison. Ne vous inquiétez pas, je ne vous présenterai pas les Beatles ou les Stones toutes les semaines. Je laisse cette tâche à mes confrères de rock'n'folk. Oui, il y a eu des bonnes choses après le 3 juillet 1971 et j'essaierai de tous nous mettre d'accord sur ce point. Car de toute façon, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Syd Barrett, Lou Reed et bien d'autres sont décédés. Cependant, et comme tous les grands artistes, ils laissent derrière eux une marque éternelle de leur passage sur Terre et continuent d'alimenter les rêves des enfants d'aujourd'hui. Ainsi, Robert Johnson, bercé par la musique de LeRoy Carr, a influencé Led Zeppelin, qui ont eux-mêmes influencé des milliers de groupes derrière eux. Mardi soir, des dizaines de personnes se sont retrouvées dans une cave étroite, près du pont battant à Besançon. Ils ont payé 3 euros, ont siroté des bières ou des mentalos, et ont pu entendre les successeurs des plus grands groupes de rock psychédélique, de Grateful Dead aux Black Angels en passant par les Doors, Yes ou Caius. Leur nom, Libidofeuze. Libido que je traduirai simplement par désir pour les auditeurs âgés de moins de 16 ans, et fuzz pour cet effet remarquable utilisé pour salir le son des instruments. Une soirée avec eux vous fait comprendre le sens de ces deux mots. Ils sont trois, une batterie, une basse et une guitare, tout simplement. On peut sentir le souffle glacé du désert californien à travers leur son, la force dans la voix, mélangée à la délicatesse et la grâce de leur batteur. L'art est si près de chez vous qu'il serait dommage de ne pas en profiter et de préférer une soirée devant The Voice ou s'apitoyer sur le sort de vos amis Facebook. Une soirée avec Libidofeuse, c'est apercevoir un bout de vie dans une forêt désespérance qui ne vous propose qu'une dizaine d'artistes, incompétents et sans talent. Car ces trois personnes, ensemble, créent l'alchimie. Alchimie, art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Libidofeuze sur ma radio, un rock désertique et envoûtant. Le 14 avril 1980, soit 3208 jours après le décès de Jim Morrison, naquit un être humain qui va profondément changer la vie de certains adolescents en recherche d'idoles et de solutions à leurs problèmes existentiels. Il s'agit de Win Butler. Le 18 août 1977, soit 2238 jours après le décès de Jim Morrison, une petite fille nommée Régine Chassagne est mise au monde à Saint-Lambert, près de Montréal, au Québec. C'est justement quelque part dans cette ville que nos deux protagonistes se retrouveront, lors d'une soirée étudiante au début des années 2000. L'histoire raconte que la jeune fille aurait séduit Butler en reprenant des standards de jazz. Suite à cette rencontre, ils ont la brillante idée de réunir leurs talents musicaux et de créer un groupe de rock. Après avoir recruté Richard Parry, Sarah Neufeld, Timothy Kingsbury, ils fondent The Arcade Fire, Dieu merci. Timidement, ils se lancent dans la création d'un EP qu'ils autoproduiront. Composé de 7 titres et enregistré en 2002 à Mount Desert Island dans le Maine, un état américain, l'album annonce déjà une couleur particulière, un grain unique. En 2013 paraît alors leur première œuvre qu'ils appelleront, non pas sans originalité, Arcade Fire.
No!
La même année, Butler et Chassan se marient et le groupe se lance dans la création d'un album qui prendra une tournure particulière mais qui sera sans nul doute un des plus grands chefs-d'œuvre du XXIe siècle, Funeral. C'est la définition de l'espoir, de la vie, du désir, de l'optimisme, de la joie, de l'amour. Des textes emplis d'une émotion irréelle. Je suis allé dans la nuit, je suis allé chercher la lumière. La glace a couvert les yeux de mes parents, je ne sais pas comment voir, je ne sais pas comment pleurer. Chaque battement de guitare, chaque coup de caisse claire semble être un éclair qui s'abat avec effroi sur une terre morne et inhabitée depuis des millions d'années. Wake Up est un hymne repris en chœur par une centaine d'enfants. Et lorsque Win Butler chante « Quelqu'un m'a dit de ne pas pleurer », on comprend qu'Arcade Fire n'est pas une histoire qu'on écrit tout seul, mais un voyage qu'on vit à plusieurs. Nous sommes juste un million de petits dieux provoquant des pluies torrentielles. Tel est le message lancé avec rage et conviction par cette dizaine de musiciens et de choristes qui semblent se décupler en un million de personnes. Au début de l'année 2004, le jeune couple fait face à de nombreux deuils familiaux, ce qui modifiera profondément la conception et l'allure de cette œuvre. Mais comme nous le rappelle si bien Michael Arndt, scénariste de Little Miss Sunshine lorsqu'il parle de Marcel Proust, la souffrance forme. Et bon nombre d'artistes s'accordent pour dire qu'ils ont été les plus productifs lorsqu'ils étaient tristes.
En arrivant à la fin de sa vie, il a fait le bilan et il a décidé que toutes ces longues années de souffrance avaient été les plus belles années de sa vie, qu'elles avaient fait de lui ce qu'il était et que toutes les années de bonheur avaient été une perte de temps. Il n'avait rien appris. Alors, si tu t'endormais jusqu'à tes 18 ans, oh, pense à toute cette souffrance que tu raterais. Le lycée, tiens, surtout le lycée, ce sont les plus belles années de souffrance. C'est de la souffrance de première qualité.
Cette vision est sans doute exagérée, mais on se doute que la suite de décès qui a eu lieu lors de la création de l'album d'Arcade Fire fut un tournant important dans la conception de leur style et la couleur de leur existence. Une année sans lumière, où le groupe peint un paysage triste, un monde éteint, en est le plus bel exemple. Sur une musique mélancolique, en français et en anglais, les lampadaires ont tous brûlé. Ce sont leurs yeux qui éclairent la nuit. C'est aussi ça Arcade Fire, une colère abattue en vain contre la plus puissante des forces, la vie. Alice est morte dans la nuit, j'ai appris à conduire toute ma vie j'ai appris. Voilà comment c'est un funéral dans un soupir, une dernière bouffée d'oxygène. Et c'est pour cette raison que je parlais de Win Butler comme d'un être qui a profondément changé la vie de certains adolescents en recherche d'idoles et de solutions à leurs problèmes existentiels, puisqu'il a changé la mienne. Je m'arrêterai ici contre toute attente car aucun album produit par le groupe ces 10 dernières années n'est à la hauteur de leur premier. Neon Bible, The Suburbs ou encore Reflector. Je laisse mes confrères dresser l'éloge de ces derniers et faire d'Arcade Fire l'attraction du moment. Ils font maintenant partie du paysage musical et signent par exemple la BO de l'excellent film de Spike Jonze, Her. Brian Eno disait « Le premier album des Velvet Underground n'a été vendu qu'à 10 000 exemplaires, mais chacun de ceux qui l'ont acheté a fondé un groupe. » Bien sûr, il a raison et je pense d'ailleurs, Funeral s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et chacun de ceux qui l'ont acheté ont, pour une raison ou une autre, à un moment donné de leur vie et à un instant précis de l'album, ressenti une sensation propre au chef-d'œuvre que seuls les plus grands artistes peuvent créer. C'est une force invraisemblable qui s'empare de leur corps, un frisson gigantesque, un saut qui dure une éternité, plongeant le spectateur stupéfait dans les recoins inatteignables de l'âme quand on se contente de vivre. Et même si une dizaine d'albums médiocres succédaient Funeral, nous serons toujours des milliers à reprendre le refrain de Wake Up. Arcade Fire ne se chante pas seul, il se vit à plusieurs. C'est la définition du chef-d'œuvre. Dans 5 ans, ils seront une dizaine à chanter Miley Cyrus cachés dans leur chambre. Et dans 10 ans, il n'y aura que Miley Cyrus pour chanter Miley Cyrus. Mozart, Schubert, Chopin, Hendrix, Dali, Barrett, Picasso, Reed, Warhol et les milliers de personnes qui créent l'art sont intemporels. Arcade Fire en fait partie. Ils forment une liste gravée pour l'éternité sur le temple de l'art et la beauté. Demain, il y aura peut-être votre nom. Réinventons les dieux, tous les mythes des siècles. Célébrons les symboles des profondes forêts anciennes, disait Jim Morrison. Nous sommes 1 million de petits dieux provoquant des pluies torrentielles, a ajouté Arcade Fire. Il est 18h58. J'espère avoir partagé quelque chose avec vous et qui sait peut-être changer le destin de votre vie. Je suis Julien Pelletier et voilà ce que j'ai fait lorsqu'on m'a demandé il y a une semaine d'écrire une chronique musicale.
Merci beaucoup Julien, très très belle chronique.
Merci à toi Nico.
Nous allons clore gentiment cette émission.
Ma radio.
Merci à vous d'avoir suivi cette première émission. Merci également à toute l'équipe éditoriale, à Frédéric Geoffroy et à nos techniciens Dorian Baricot et Clément Delpierre. La semaine prochaine, jeudi 6 février, Ma Radio vous donne rendez-vous aux mêmes horaires, au même endroit, www.radio.btsaudiovisuel.com pour une nouvelle émission qui vous sera animée par Anaïs Girard-Blanc. Merci de votre attention, bonne soirée à vous et à très vite.
Ma radio.